Livre 3. Dans ce monde monastique qui comprenait le nome de Nitri et ses annexes de Sété, entre la vallée du Nil et la chaîne des montagnes libyques, monde peuplé de cénobites et d'anachorètes, où les villes étaient des couvents et les laboureurs des ermites, vivaient quatre hommes bien connus de toute l'Égypte, sous le sobriquet des longs frères. Ce sobriquet bizarre, ils le devaient à leur haute taille efflanquée, que relevait encore une maigreur excessive, fruit de leurs dures austérités. Une simplicité presque enfantine n'empêchait pas chez ces fils du désert la distinction de l'esprit et même un savoir assez profond. Disciples de cette grande école d'Alexandrie, où Didyme l'aveugle continuait les enseignements des Clément et des Origènes, ils s'étaient essayés dans les lettres ecclésiastiques par quelques traités d'exégèse estimés. Une touchante unanimité liait d'ailleurs ensemble ces enfants de la même mère et de la même profession qui ne pouvaient vivre séparés. On eût dit qu'ils pensaient, voulaient, respiraient en commun, tant leurs sentiments et leurs conduites se trouvaient d'accord en toutes circonstances, et comme s'ils n'eussent formé qu'un en réalité, on se plaisait à les confondre tous les quatre sous cette dénomination collective, les longs frères. De tout temps, les patriarches d'Alexandrie les avaient eus en grande estime. Athanase, partant pour l'exil en 341, avait tiré du monastère de Sété Ammonius, l'aîné d'entre eux, qui le suivit à Rome, et l'on se rappela longtemps dans la ville éternelle le bon moine qui, rêvant le désert au milieu de ses splendeurs, ne voulut visiter de tant de merveilles que les tombeaux des apôtres. L'exil d'Athanase finit, Ammonius acheva le sien. Il dit adieu au monde pour s'ensevelir de nouveau dans l'affreuse solitude qui était pour lui le paradis. Théophile, troisième successeur d'Athanase, avait à l'instar de ses prédécesseurs recherché l'amitié des longs frères qui étaient la gloire des monastères de Nitri, de même que ces monastères étaient seuls de l'Égypte chrétienne. Il eût voulu les fixer près de lui comme un moyen de popularité et un instrument d'action, et persécuta particulièrement Ammonius pour en faire un de ses évêques. Rebuté dans sa poursuite par les scrupules et la simplicité de ce moine qui s'était sauvé dans le désert au premier mot d'épiscopat, il envoya des gens pour l'enlever afin de l'ordonner de force. Ces procédés n'étaient pas rares à une époque où, malgré la corruption du clergé séculier, beaucoup du désintéressement régnait dans le clergé monastique. Ammonius, qui s'attendait à cette résolution violente du patriarche, avait pris d'avance ses précautions et quand les agents de Théophile arrivèrent, il leur fit voir son oreille, qu'il avait coupée lui-même et dont la cicatrice était à peine fermée. « Votre voyage est sans objet, leur dit-il, car je suis un mutilé volontaire. Or, ces hommes-là ne peuvent être admis dans le corps ecclésiastique. » Les canons le défendent. Cela dit, il rentra dans sa cellule, aussi fier que s'il eût gagné une victoire. C'est ainsi qu'Ammonius avait échappé à l'épiscopat. Le troisième frère, Eutynius, attiré sous quelques prétextes dans Alexandrie, fut attaché à l'administration épiscopale par commandement express du patriarche. Mais profitant d'une occasion favorable, il rompit ses liens et se sauva dans la profondeur des solitudes libyques. Eusebius, le quatrième, ne se montra pas moins sauvage. Un seul, parmi les quatre, succomba à l'ambition, ou plutôt au désir d'être utile dans une autre voie que ses frères. Ce fut Dioscore, le second, qui se laissa ordonner par Théophile, évêque du diocèse d'Hermopolis la Petite. Il est vrai que ce triste et aride diocèse était celui des cellules et s'étendait sur le monastère de Nitrie et les ermitages de Cété. On l'appelait l'évêché des montagnes. Le moine Dioscore, en l'acceptant, n'avait presque pas changé de condition et on le retrouvait plus souvent dans son ancienne retraite qu'à Hermopolis la Petite, siège peu fastueux d'ailleurs de sa dignité épiscopale. Les quatre frères s'étaient liés d'une étroite amitié avec un haut fonctionnaire de l'église d'Alexandrie, le grand hospitalier Isidore, et cette amitié avait pris naissance pendant le voyage d'Athanase à Rome, où Isidore s'était trouvé le collègue d'Ammonius dans la suite du patriarche. Les longs frères et lui se voyaient fréquemment. Fréquemment aussi l'hospitalier recourait à leurs sages avis dans les difficultés de sa charge, car il avait fort à lutter contre la tyrannie et les mauvaises passions de son évêque. Théophile, dont nous venons de parler, devant tenir une place considérable dans nos récits, comme il en occupe une dans les querelles ecclésiastiques de son temps, nous ferons connaître d'abord ce personnage, un peu en détail, afin de montrer par quel enchevêtrement de faits étranges il dut être amené d'Alexandrie sur le grand théâtre de Constantinople pour y partager la scène avec Jean Chrysostome, comme Satan avec Job dans le poème biblique qui porte ce nom. Théophile passait parmi ses contemporains pour un des plus grands théologiens, mais aussi des plus méchants hommes de ce siècle. Doué d'un vaste savoir, fruit de profondes études à l'école d'Alexandrie, actif, intelligent, subtil, habile à tourner une difficulté autant qu'à combiner une attaque, il joignait à ses qualités des vices qui en faisaient autant de fléaux pour les autres. La science, chez lui, n'était qu'un moyen de satisfaire son ambition ou ses haines, l'acuité de l'esprit qu'un instrument de trame malfaisante, l'activité qu'une menace contre tout homme ou toute doctrine qui donnait ombrage à ses prétentions d'omnipotence. Son intérêt était la seule règle de sa volonté la seule loi de son Église. Il traitait les évêques de sa juridiction en véritables esclaves qu'on pouvait casser ou suspendre sans explication ni ménagement au moindre soupçon d'indépendance. En dehors de sa juridiction, glissant perfidement le pied dans les affaires de ses voisins, il se constituait le juge des évêques étrangers, juge redoutable, car il avait pour lui l'autorité de la science, et l'excommunication partie de ses mains produisait toujours l'effroi chez les uns, le doute chez les autres. Nul théologien du Ve siècle ne sut mieux que lui donner un corps à des fantômes d'hérésie. L'arme de ses excommunications était donc presque toujours mortelle. Aussi s'est-il rendu redoutable dans les diocèses de Palestine et de Syrie, où beaucoup d'évêques faisaient volontairement soumission devant lui, comme devant le patriarche de tout le midi de l'Empire. À l'intérieur de sa juridiction métropolitaine, il ne se contentait pas de faire et défaire les évêques. Il changeait les diocèses en supprimant d'anciens, en créait de nouveaux, étendait ou rétrécissait les limites des sièges suivant son caprice ou le besoin de sa domination. Au moindre regimbement de ses prêtres ou de ses moines, il en appelait au châtiment séculier, à la chaîne, à la prison, à l'exil, et les magistrats civils n'osaient lui refuser leur concours car il était puissant près de l'empereur et bien servi par les officiers de la cour dont il s'acquérait l'appui à prix d'or. Il soudoyait à Constantinople, nous dit un de ses contemporains, des espions au moyen desquels il savait tout ce qui s'y passait. C'est lui, la plupart du temps, qui faisait nommer le préfet d'Alexandrie. Et ce préfet n'oubliait guère durant son gouvernement à quel évêque il avait affaire. Cette toute puissance dans les deux sphères ecclésiastiques et civiles avait valu à Théophile le surnom de pharaon chrétien et ainsi sa passion du pouvoir était satisfaite. Mais il en avait une autre, non moins vive, celle du gain. L'avidité de Théophile était effrayante. Il aimait l'argent pour l'avoir et l'entasser. Il l'aimait pour étaler un luxe favorable à son influence. Il l'aimait enfin pour corrompre, pour nuire, pour étendre sa domination. Et il avait inventé de curieux moyens d'en acquérir, non seulement semblables, mais avec gloire aux yeux de l'Église, mettant résolument la religion de complicité dans ses vols. La politique des empereurs romains depuis Constantin avait été de laisser les temples du culte païen se fermer d'eux-mêmes et les anciens dieux tomber de vétusté par la désertion de leurs adorateurs. De sages lois étaient même venues protéger ces vieux sanctuaires contre la destruction et la spoliation, souvent tentées sous couleur de zèle chrétien. Ainsi avaient été préservés ceux de l'Égypte dont les richesses fabuleuses étaient restées à peu près intactes. Ces richesses enflammèrent la convoitise de Théophile. Il fut le premier, nous dit un écrivain prosélytiste, qui foula aux pieds les lois de tolérance et de respect pour des pratiques séculaires, et la manière dont il conduisit cette guerre religieuse montre assez que le fanatisme n'en était ni le seul, ni le plus grand mobile. Son choix se portait en effet sur les temples renommés par leur opulence et qui pouvaient rémunérer largement l'emploi de son zèle, tel par exemple que celui de Canope, contre lequel il dirigea en personne une expédition de pillage. Il n'eut pas de cesse non plus qu'il ne fit au cœur même d'Alexandrie le sac du Sérapéum, dont les richesses étaient immenses et qui passait pour le temple le plus magnifique de tout l'univers après le Capitole. Le Sérapéum, entièrement bâti de marbre, était garni à l'intérieur de trois revêtements métalliques superposés, le premier en cuivre, le second d'argent, le troisième d'or. Des statues plaquées d'or, des dons votifs en bijoux, en pierres précieuses, en or massif, s'y trouvaient à foison. Le patriarche en fit le siège, accompagné du préfet et du maître des milices, dont il requit l'assistance parce que les païens se montraient résolus à protéger ce dernier asile de leur croyance. Tout fut pillé, et le patriarche, par délicatesse de religion, fit main basse sur les idoles d'or. Ces idoles, si l'on en croit les écrivains du temps, il ne les détestait pas. Il en amassa des grandes collections qu'il enfouissait dans les caveaux de son palais épiscopal. C'est ainsi que s'alimentaient les trésors de Théophile. Les chrétiens laissaient passer sans beaucoup crier ces spoliations cachées sous le voile de l'enthousiasme religieux, mais ils supportèrent moins patiemment celles que le patriarche faisait tomber sur les biens de leurs églises ou sur leurs fortunes privées. Théophile, effectivement, se montrait fort impartial vis-à-vis des lieux consacrés à un culte quelconque, pourvu qu'ils fussent riches, et sans employer la force contre les églises de sa juridiction ou les hôpitaux chrétiens, il les dépouillait sans plus de scrupules que les temples du polythéisme. Aucun fonds, même ceux des pauvres, n'était à l'abri de ces détournements. Il avait près de lui une sœur qui partageait sa passion pour l'or et extorquait de son côté tout ce qu'elle pouvait de donations ou de legs dont la destination était l'Église ou les pauvres. Elle le faisait au moyen de fidéicommis dont elle s'appropriait les dépôts. Ces pratiques étaient devenues notoires dans Alexandrie et une maladie cruelle l'ayant emportée à la fleur de l'âge, on ne manqua pas d'y voir un châtiment du ciel. Théophile, comme je l'ai dit, employait le fruit de ses rapines, en partie, à mener dans son évêché un train magnifique qui éclipsait celui des officiers civils, en partie à construire des églises. Il en éleva plusieurs fort belles, à ce qu'il paraît, et faisait grand bruit de ses constructions, fidèle à son abominable système de couvrir toujours ses méfaits de la gloire et du service de Dieu. Un solitaire renommé pour la sainteté de sa vie, Isidore de Péluse, peignait en termes d'une amertume fort originale l'état où était tombée la chrétienté égyptienne sous un pareil pasteur. L'Égypte, disait-il, est revenue à son iniquité première. Elle rejette Moïse et se range au parti de Pharaon. Elle flagelle les faibles et accable ceux qui sont dans l'affliction. Elle bâtit des villes et prive les ouvriers de leur salaire. Voilà ce qu'elle fait sous le bâton pastoral d'un Théophile, ami passionné des pierres, mais surtout idolâtre de l'or. Un autre contemporain ajoute que le patriarche d'Alexandrie poussait ses vengeances jusqu'au sang et à l'assassinat. Et un troisième résume ainsi son caractère. Il n'aima et ne favorisa que les méchants, gardant la persécution pour les bons. Or, un jour de l'année 402, une riche matrone se présenta chez le grand hospitalier, tenant sous son bras un sac plein d'or, et prosternée aux pieds du vieillard, elle lui dit « Ceci est une somme considérable que je destine aux étrangers et aux pauvres. Jure-moi, par les serments les plus redoutables, que tu n'en laisseras pas prendre une obole à Théophile. Je préfère les créatures de Dieu qui souffrent aux créatures de pierre que le patriarche élève sur leur douleur. » Et cette femme continua d'embrasser ses genoux jusqu'à ce qu'il eût prononcé le serment qu'elle exigeait de lui. Elle se releva alors et lui remit l'argent. Isidore était un homme rigide, honnête, qui administrait avec économie les dépôts de la charité publique, mais qui n'était pas toujours le maître en face d'un évêque despote et insatiable. Fortifié dans sa résistance par l'obligation de son serment, il ne parla point à Théophile de ce qui s'était passé. Mais la matrone fut moins discrète, et cette aventure devint au bout de quelque temps la fable de la ville. Le patriarche en conçut une haine mortelle contre le grand hospitalier, à qui pourtant il n'osa point enlever sa place. À quelque temps de là, le même Isidore se trouva engagé dans une affaire qui devait être plus sensible encore à l'orgueil de son supérieur. Un legs avait été fait à l'église d'Alexandrie par l'intermédiaire de la sœur de l'évêque, comme il arrivait souvent, et le testament était conçu, à ce qu'il paraît, en termes ambigus, pour couvrir l'intention réelle de la donation. Théophile fit valoir cette ambiguïté pour réclamer le legs au profit de sa sœur. Il lui avait été destiné et non à l'Église, disait-il. Elle en avait reçu du vivant du testateur la promesse verbale en présence du grand hospitalier. Isidore, appelé en témoignage, déclara sur sa foi qu'il n'avait jamais entendu rien de pareil et qu'il ignorait complètement cette affaire. Sa perte fut dès lors décidée. Que trouver cependant contre ce vieillard ancien ami d'Athanase et dont la probité était si bien établie qu'on se cachait de l'archevêque pour lui remettre les fonds destinés aux pauvres? Théophile inventa des calomnies qui s'évanouirent faute de preuves. Pour un de ces faits calomnieux qui regardait la discipline de l'Église, il invoqua le témoignage des longs frères comme au profit de sa sœur, il avait invoqué celui d'Isidore. Mais il rencontra le même obstacle dans l'honnêteté de ses bons moines. En entendant les griefs articulés contre leur ami, ils crièrent au mensonge, à la fausseté, attestant par serment qu'ils ne connaissaient pas d'homme plus respectable en Égypte. Le patriarche, qui se croyait le maître des longs frères par les semblants d'affection dont il les avait constamment entourés, se troubla d'abord à leur réponse. Puis il insista et prétendit qu'ils témoignassent sur sa parole. Ceux-ci refusèrent avec indignation et ce furent 4 ennemis de plus que Théophile dut englober dans la perte de son hospitalier. Il eût été difficile de prendre en faute, du moins en faute grave et digne de l'excommunication pour leur conduite dans les choses du monde, des solitaires qui n'y vivaient pas, que l'on considérait au désert comme le modèle de la vie ascétique. Théophile, pour les frapper, eut recours à l'arme qu'il tenait en réserve dans les cas extrêmes, le crime d'hérésie. C'est ici que l'histoire des longs frères et du patriarche Théophile se rattache par un lien intime et fatal à l'histoire de Jean Chrysostome. Théophile dénonça bientôt comme hérétiques excommuniés les longs frères et leurs compagnons au nombre d'environ 300. La Palestine leur était fermée, la Syrie également. Convaincus de leur malheureux sort, ils n'eurent plus qu'un désir, celui de gagner au plus tôt Constantinople et de se mettre sous la protection d'un évêque aussi puissant que Chrysostome. Un des ports de la côte, Césarée, leur fournit le navire dont ils avaient besoin et ils arrivèrent sans encombre dans la ville impériale où leur apparition causa une certaine surprise. La vue de ces moines était une nouveauté. Leur costume aussi frappa singulièrement les regards. Ils avaient les jambes et les bras nus et portaient pour tout vêtement ces peaux d'agneau du désert à la toison fine et blanche qu'on appelait melottées. De 80 qu'ils étaient partis d'Égypte, ils n'étaient plus maintenant que 50. La fatigue et la misère ayant moissonné le reste, et eux-mêmes, malgré leur forte constitution, présentaient des corps exténués et des visages où l'angoisse du malheur était empreinte. Après s'être reposés sur le port, ils se formèrent en troupe, Isidore et les longs frères tenant la tête, et ils se dirigèrent vers l'archevêché où les longs frères entrèrent seuls. Admis en présence de l'archevêque, les longs frères se prosternèrent à ses pieds suivant l'usage, exposèrent en peu de mots les événements qui les amenaient à Constantinople et que Chrysostome connaissait vaguement par le bruit public. Ils ajoutèrent qu'ils venaient lui demander sûreté pour leur personne et protection auprès de l'empereur contre les violences de leur patriarche dont ils réclamaient le châtiment de la justice du prince. Ils avaient à cet égard dressé un libelle d'accusations qu'ils lui présentèrent. Chrysostome les releva avec bonté et les interrogeant sur les questions de doctrine d'où était né le dissentiment, il leur fit expliquer dans un entretien familier leurs opinions sur les points les plus délicats de l'origénisme. Nourri comme il l'était de la fleur des doctrines orientales, il eut bientôt sondé ses cœurs sincères et ne découvrit rien dans leur foi qui pût justifier la condamnation d'un concile et l'excommunication d'un évêque. « Je me charge de cette affaire, leur dit-il, et je ferai en sorte qu'un autre concile vous absolve ou que votre évêque lève de son plein gré votre excommunication. Reposez-vous-en sur moi. » Quant à la requête qu'il voulait adresser à l'empereur, il leur conseilla de ne point le faire, de ne point traduire un chef ecclésiastique devant les juges du siècle. « C'est à l'Église, leur dit-il, de juger les choses de l'Église. Les tribunaux temporels n'ont rien à voir dans des débats qui intéressent le service de Dieu. » Et les congédiant, il ajouta, « Mes frères, vous ne logerez point ici, car je ne puis recevoir à ma table et sous mon toit des hommes condamnés et excommuniés, que leur condamnation ne soit réformée canoniquement et leur excommunication retirée. Mais je vous placerai dans les cellules de mon église d'Anastasie, ou mes diaconesses ne vous laisseront manquer de rien. Par la même raison, vous ne pouvez être admis à la communion des mystères. Je vous autorise toutefois à participer en commun avec nous aux prières de l'Église. » Il leur enjoignit enfin de rester renfermés au domicile qu'il leur assignait, de se montrer rarement dans la ville, surtout de garder un silence absolu touchant l'objet de leur voyage, dont la bonne issue devait tenir aux décisions d'un concile et à ses propres soins que troubleraient nécessairement les interventions du dehors. Cela dit, il fit conduire les longs frères et leurs compagnons dans les vastes cloîtres qui entouraient l'église d'Anastasie, et mandant près de lui la diaconesse Olympias, il la chargea de s'entendre avec les matrones de la ville pour procurer à ces malheureux, dénués de tout, la nourriture et le vêtement. La préoccupation de Chrysostome au sujet de cette aventure était grave, car il en pouvait rejaillir un grand déshonneur sur l'Église si les faits, tels qu'ils lui étaient racontés, le procès d'Isidore, le sac des couvents de Nitrie, la condamnation des longs frères, sans qu'ils eussent été entendus, devenaient un sujet d'enquête, d'examen, de discussion, et enfin de sentence devant le tribunal laïque. Il n'avait pas le moindre doute sur la sincérité des longs frères, et de plus, il connaissait Théophile par expérience comme un adversaire de peu de conscience et un machinateur de grande habileté. Il avait eu à lutter contre lui lors de son élection au siège de Constantinople, et ce patriarche d'Alexandrie, alors présent dans la ville impériale, avait employé pour faire échouer un homme qu'il connaissait à peine, mais dont il était jaloux, des manœuvres qu'on n'aurait attendues que de l'ennemi le plus invétéré. Il n'avait même consenti à l'ordonner après l'élection que sur le commandement réitéré de l'empereur ou de son ministre Eutrope. Chrysostome était donc bien convaincu que, dans les affaires de Nitrie, Théophile avait mérité toute la réprobation que les fugitifs appelaient sur sa tête. Mais l'idée d'un grand évêque, le second du monde oriental, assis en accusé au prétoire d'un juge laïque, le révoltait malgré lui et l'intéressait presque à sa cause. À peine les solitaires étaient-ils installés dans leur cellule qu'il prit la plume, et afin de prévenir ce qui, à ses yeux, était une honte pour la dignité épiscopale, il écrivit à son co-évêque d'Alexandrie, le conjurant de lui accorder comme à un frère et à un fils la grâce des exilés au nom de la paix de l'Église et de l'honneur de Dieu. « J'ai interrogé les moines de Nitrie, » disait sa lettre, « et en vérité, je n'ai découvert dans leur doctrine rien de contraire à la vraie foi. Mais l'affliction leur a tourné la tête, ils veulent te dénoncer à l'empereur et m'ont présenté dans ce dessein une requête dont ils ont suspendu l'envoi à ma prière. Toutefois, ils ne s'abstiennent qu'à regret, et je tremble qu'ils ne reprennent au premier moment leur fatale résolution. Lève donc de toi-même l'excommunication, pardonne-leur et tout sera fini. Autrement, il faudra recourir à un concile que je convoquerai ou laisser porter cette fâcheuse affaire au tribunal des juges séculiers. J'attends ta réponse et voudrais savoir quel sentiment tu as de tout ceci afin de choisir moi-même une ligne de conduite. » En caractérisant comme il le faisait les intentions des longs frères, Chrysostome ne se trompait pas. Il comprenait que ces hommes simples mais fermes, jusqu'à l'opiniâtreté, et exaspérés d'ailleurs par la souffrance, n'admettraient ni ménagement ni délai, et que lui-même, n'ayant aucun moyen de satisfaction à leur offrir, il lui échapperait infailliblement. Théophile, de son côté, haïssait particulièrement Chrysostome, dont il enviait la gloire et avait essayé d'entraver la fortune, mais qu'il était obligé de reconnaître pour son supérieur dans la hiérarchie des églises. À la lecture de cette lettre, sage dans son objet, modéré dans sa forme, mais où l'archevêque se faisait juge des hommes qu'il avait excommuniés, les déclarait orthodoxes après examen, ajoutant que si le pardon ne leur était octroyé, lui, Jean de Constantinople, convoquerait un concile pour les absoudre, le hautain patriarche bondit de fureur et ses rancunes se réveillèrent. En réfléchissant aux raisons qui pouvaient porter cet ancien ennemi à prendre le patronage de quelques misérables moines, il n'en imagina que deux. Le désir de lui nuire ou bien la conformité de doctrine avec les excommuniés, et il se rappela qu'autant où lui-même était origéniste ardent, il comptait Chrysostome parmi les auxiliaires de son parti. Ce fut pour cet esprit malfaisant un trait de lumière, et il songea dès lors à quelque grande intrigue qui fit tomber dans le même filet les protégés et le protecteur. Pour le moment, il s'en tint aux questions de discipline et de compétences ecclésiastiques et fit à la lettre de Chrysostome la réponse suivante. « Je ne croyais pas que tu puisses ignorer les canons de Nicée qui défendent aux évêques de juger des causes hors de leur ressort. Que si tu les ignores, je t'invite à en prendre connaissance et à ne pas recevoir de requêtes contre moi. » Dans le cas où je devrais être jugé, il faut que je le sois par les évêques d'Égypte et non par toi, qui es éloigné d'ici de 75 journées. Le cinquième canon de Nicée portait effectivement défense aux évêques des autres diocèses de recevoir en communion ou en recours les membres du clergé et les laïcs qui auraient encouru l'excommunication dans leur diocèse particulier. Mais il y était ajouté comme correctif que l'on s'informerait, si ce n'était point par faiblesse ou par quelque autre défaut des évêques, ou par suite de quelque inimitié personnelle, que les plaignants auraient été retranchés de la communion. Chrysostome était donc, entre les excommuniés de Nitrie et leurs métropolitains, dans toute la rigueur du droit. Il voulait examiner au terme des canons si leur condamnation n'était pas l'effet soit d'une erreur, soit d'une vengeance privée. Théophile, au contraire, feignait d'imputer son intervention à une grossière ignorance des règles ecclésiastiques et voulant afficher jusqu'au bout le mépris pour Chrysostome et pour son patronage, il fit appréhender au corps l'aîné des longs frères demeuré dans son diocèse des montagnes comme un consolateur et un appui pour ce qu'il y restait encore de solitaire. Par un procédé qui rappelle les tyrans de l'ancienne Égypte, le patriarche envoya à Dioscore des esclaves éthiopiens qui le traînèrent hors de son église, et c'est ainsi que le vieillard apprit qu'il allait être déposé. La sentence canonique suivit de près. Non seulement l'évêque d'Hermopolis la Petite fut cassé de son grade et retranché de la communion, mais le diocèse lui-même fut aboli, comme si la présence de ce saint homme sur la plus pauvre siège d'Égypte y eût imprimé une souillure. Dioscore, délivré de sa triste chaîne, s'embarqua furtivement et rejoignit ses frères à Constantinople. Cet exploit de Théophile complétait la lettre à Chrysostome et lui donnait toute sa signification. L'archevêque de Constantinople parut ne point sentir le trait insolent par lequel Théophile répondait à sa prière. Il lui écrivit même pour le ramener à des sentiments plus calmes dans l'intérêt de l'Église, tandis que d'un autre côté, il prêchait la paix aux longs frères. Ces moines et leurs compagnons, là, de tant de délais, irrités, malades, se contenaient à peine. Une perte douloureuse acheva de les aigrir. Le grand hospitalier Isidore mourut. Ce prêtre, source involontaire de leur malheur, expirait à l'âge de 85 ans dans l'une de ses cellules d'anastasie, que l'archevêque leur avait assigné pour demeure, et où ils ne virent bientôt plus qu'une prison. Ils se demandèrent alors les uns aux autres avec désespoir s'ils étaient destinés à mourir, comme leur ami, dans l'exil, sans justice ni vengeance. Ils en étaient là quand de nouveaux éléments vinrent leur rendre la liberté d'agir et dégagèrent l'archevêque de toute responsabilité dans les tristes affaires de Nitrie. Il était entré tout récemment au port de Constantinople un navire égyptien amenant d'Alexandrie une ambassade du patriarche à l'empereur. Les envoyés étaient au nombre de 5, un évêque et 4 abbés, et dans leur rang figuraient quelques-uns des odieux espions de Nitrie, provocateurs et instruments de tous ces désastres. La trahison, comme on voit, avait bientôt reçu sa récompense. Ils étaient porteurs d'une requête au prince tendant à ce qu'on chassât de Constantinople comme des hommes dangereux et capables de tout, des moines fugitifs, excommuniés par leur évêque et condamnés par un concile pour crimes d'hérésie, de magie, de rébellion enfin contre l'Église et l'État. Ces scélérats, c'étaient les longs frères et leurs amis. L'imputation de magie glissée au milieu des autres avait été perfidement imaginée pour intéresser le pouvoir civil à l'extermination de ces malheureux. La magie, en effet, était un crime de lèse-majesté, jugé la plupart du temps par des commissions spéciales, attendu qu'il s'y mêlait presque toujours aussi des menées ambitieuses et des complots contre le chef de l'Empire. Les lois qui la punissaient étaient donc d'une dureté impitoyable. C'était la relégation ou la mort. Faire des exilés de Nitrie une bande de magiciens, c'était armer contre eux la haine publique, les soupçons du prince, le zèle des adulateurs et des lâches. Les envoyés s'offraient d'ailleurs à soutenir leur dire devant le tribunal de l'empereur. Pour que l'accès au palais leur fût plus facile, et l'office du prétoire plus favorable, ils arrivaient munis de grandes sommes d'argent et de cadeaux de toute nature. Le patriarche d'Alexandrie comptait à la cour byzantine, ainsi que je l'ai dit, plus d'un serviteur à gage prêt à l'aider dans toutes ses entreprises. Les relations du primat d'Égypte avec le gouvernement impérial avaient un caractère tout particulier, unique dans l'Empire d'Orient. Alexandrie alimentait Constantinople comme Carthage nourrissait Rome. Et l'évêque qui tenait sous sa main les fermiers des grains, la flottille de transport, en un mot, les nombreux agents du service de l'Anon, était devenu par le fait un personnage politique très important. Un retard d'un mois, de 15 jours, d'une semaine, dont les envois suffisaient pour affamer la ville, résidence des Césars, et les Césars eux-mêmes, et l'on put mesurer l'influence des redoutables patriarches d'Alexandrie lorsque, sous le principat de Constance, Athanase fut accusé d'avoir voulu créer la famine. Outre cela, le service de l'Anon, comptant dans l'intérieur de Constantinople des agents presque aussi nombreux qu'au port d'Alexandrie, et ses agents étant presque tous égyptiens, les mêmes patriarches possédaient au sein de la ville impériale un petit peuple de matelots, d'ouvriers, de portefaix, de trafiquants de toutes sortes, concentrés dans un quartier voisin de la mer et en rapport avec la flotte. Peuple turbulent, toujours mêlé aux émeutes de la plèbe byzantine et toujours prêt à entrer dans des complots religieux sur un signal de son évêque. Aussi l'histoire nous montre-t-elle les Égyptiens de Constantinople jouant fréquemment un rôle dans les désordres ecclésiastiques de cette ville, par exemple dans la lutte entre Grégoire de Nazianze et le philosophe Maxime, et plus récemment lors de la candidature de Jean Chrysostome. Cet état de choses assurait à l'intervention du primat d'Égypte dans une affaire infiniment plus de poids auprès du gouvernement impérial qu'à celle des primats d'Antioche, de Thessalonique ou de Césarée, l'habileté égyptienne faisait le reste. Non content de poursuivre juridiquement les exilés devant l'empereur, les envoyés de Théophile propageaient contre eux dans la ville les bruits les plus infamants, et déjà la disposition des esprits, favorable jusque-là, leur devenait contraire. Les pauvres moines ne pouvaient plus paraître dans les rues qu'on ne les montrât au doigt en les traitant de magiciens. À bout de patience, ils résolurent de répondre aux accusations en attaquant de front les accusateurs, et quoi qu'en pût dire Chrysostome, ils rédigèrent une plainte dans laquelle, énumérant leurs griefs, ils requéraient contre l'évêque et les quatre abbés, agents de Théophile, la peine de calomniateur. Ils firent plus. Ils englobèrent dans la même réquisition le patriarche d'Alexandrie comme le premier et le véritable auteur des calomnies. Chrysostome alors les désavoua hautement et déclara se séparer d'eux pour toujours. Chose triste à dire, cette séparation leur profita près des gens qui n'aimaient pas l'archevêque. Celui-ci fut blâmé d'abandonner ainsi dans le péril des suppliants venus des extrémités de l'Orient se placer sous son aile et de sacrifier la cause de ses hôtes à son orgueil de prêtre, qui ne voulait pas qu'un autre prêtre, si criminel qu'il pût être, fût traduit devant un tribunal laïque, fût-ce même le tribunal de l'empereur. On exaltait au contraire le courage de ces honnêtes gens qui brisaient de gaieté de cœur leur dernier appui plutôt que de subir patiemment l'infamie. À mesure que l'intérêt se reportait sur eux, les ennemis de l'archevêque en prenaient occasion pour noircir sa conduite, et l'infortune des moines de Nitrie fut un sujet d'incrimination pour lui. On prétendit que ce cloître où il les avait enfermés était réellement une prison, qu'ils y supportaient les plus durs traitements, et qu'un d'entre eux étant mort de misère et de faim, on parlait vraisemblablement d'Isidore, Chrysostome avait refusé de lui rendre les devoirs dus au mourant. Ceci pouvait être vrai, car la règle ne lui permettait pas d'entrer en communion de sacrement avec des gens frappés de séparation canonique. La cour encourageait de tout son pouvoir ce revirement de l'opinion, et en dépit des menées de Théophile, les moines de Nitrie y devinrent à la mode par opposition à Chrysostome. Non seulement on les encouragea dans leur résolution de demander justice à l'empereur, non seulement on leur fit déposer leur placet, suivant les formalités voulues, à l'office du prétoire impérial, mais comme la réponse tardait, vu la lenteur des procédures, on leur mit en tête de recourir à l'impératrice elle-même qui, disait-on, ferait marcher l'affaire comme il convenait. Un jour donc, Augusta étant attendue pour la célébration des mystères à l'église Saint-Jean-Baptiste, les moines de Nitrie s'y rendirent, les longs frères à leur tête, et se tinrent rangés en bon ordre sur le passage de l'impératrice. Eudoxie arriva, entourée de gardes et assise dans son char impérial. La vue de cette troupe de moines suppliants lui causa un instant de surprise, puis, les reconnaissant à l'étrangeté de leur costume, non moins qu'à la haute taille de leur chef, elle s'avança hors de sa voiture et fit signe aux longs frères qu'elle désirait leur parler. Quand ils furent proches, elle leur dit « Donnez-moi votre bénédiction, mes frères, et priez pour moi, pour mes enfants, pour l'empereur et aussi pour l'empire. Je sais quelles sont vos demandes et il ne dépendra pas de moi qu'un synode ne soit convoqué au plus tôt pour vous donner la satisfaction que vous méritez. Je veux en outre que votre patriarche soit mandé ici pour y répondre du mal qu'il vous a fait. » Les longs frères et leurs compagnons se retirèrent le cœur joyeux. Un grand pas était fait. Eudoxie prenait en main l'intérêt des persécutés de Nitrie, et elle se précipita dans cette affaire avec la résolution d'une femme qui n'entreprend pas en vain. Quelques jours à peine s'écoulèrent, depuis l'entrevue, et déjà tous les délais résultant des formalités étaient levés. Le décret de convocation d'un synode était signé par l'empereur, l'ordre d'instruire en calomnie contre les envoyés égyptiens était signifié au juge, Théophile lui-même était cité à comparaître, et ce qui prouvait l'ardeur d'Eudoxie à servir cette cause qu'elle avait faite sienne, c'est qu'elle dépêcha un de ses officiers nommé Elaphius pour remettre en main propre au patriarche dans sa ville d'Alexandrie la double citation qu'il appelait à comparaître devant le futur concile et devant l'empereur. L'apparition d'Elaphius et ce retour subit des choses qui faisaient du patriarche un accusé, de ses excommuniés des accusateurs, frappèrent Théophile comme d'un coup de foudre. Il n'y voulut voir qu'une manœuvre habile de Chrysostome et la revanche des dédains insolents avec lesquels avait été repoussée sa proposition de concorde. Il sut pourtant contenir sa colère. Théophile se taisait, dit un contemporain, mais son silence était sinistre. Elaphius, reçu avec tout le respect dû à celle qui l'envoyait et à la mission dont il était chargé, n'obtient pourtant rien de définitif. Le patriarche prétexta les devoirs de son ministère et d'autres raisons encore pour ne point partir sur le champ, mais il promit solennellement d'être à Constantinople dans un court délai. Ce fut tout ce qu'Elaphius put rapporter à sa maîtresse. Théophile, en effet, sous le coup de la surprise et du danger, avait besoin de se recueillir. Il avait besoin de dresser des machinations nouvelles contre ce qu'il croyait une machination de son rival. Pour cela, il lui fallait du temps, et il se mit à l'œuvre aussitôt. Se sauver lui-même, rentrer dans les bonnes grâces de l'empereur et perdre Chrysostome, voilà le problème dont la solution absorbait son esprit. Quant aux longs frères, il y songea à peine, leur importance disparaissant devant la grande lutte qui allait s'ouvrir entre les deux premiers prélats de l'Orient. À force d'y rêver, il lui sembla que le moyen le plus expéditif et le plus sûr d'accabler son ennemi était de lui jeter en face quelque homme de grande autorité dans l'Église en matière de discipline et de dogme, qui vint, au nom des lois disciplinaires violées, lui demander compte de la protection dont il couvrait contre un évêque et un concile des excommuniés, lui demander compte aussi, au nom de la foi orthodoxe, de sa foi à lui, qui avait communiqué avec ses hommes. La question de l'origénisme se glissait alors dans l'affaire avec tout son venin. L'archevêque était poursuivi comme hérétique en même temps que les longs frères, et Théophile, une fois les choses engagées, paraissait pour saisir son adversaire corps à corps. Telle fut la combinaison infernale à laquelle il s'arrêta. Toutefois, il fallait trouver cet homme influent, honnête, qui à son insu mettrait son autorité, sa science théologique et son zèle au service des passions d'autrui. Théophile crut l'avoir trouvé dans la personne de son ancien adversaire, le vénérable Épiphane, évêque de Salamine en Chypre. Épiphane ne comptait pas alors moins de 80 ans. Ce vieillard avait eu ses jours d'héroïsme lorsque, consumant sa fortune et sa vie à la recherche des hérésies, bravant la faim, la soif, les mauvais traitements des hommes, pour étudier jusqu'au fond des déserts de l'Arabie les déviations de la foi chrétienne, il avait tenu d'une main ferme la chaîne des traditions apostoliques si fréquemment ébranlées en Orient par l'imagination et la fantaisie. Mais au moment où Théophile jetait son dévolu sur lui pour en faire un instrument de haine et de discorde, Épiphane n'était plus que l'ombre de lui-même. L'âge, sans diminuer son activité, avait affaibli son intelligence. Un esprit pétulant, brouillon, tracassier, remplaçait en lui cette âme généreuse, dévorée jadis du pur zèle de la maison de Dieu. Ébloui par sa propre gloire, enivré de ses succès près des conciles dont il avait dicté si souvent les décrets, il avait fini par croire à sa propre infaillibilité et par se faire, vis-à-vis de ses collègues les évêques et des synodes eux-mêmes, un juge sans appel, ou plutôt un tyran. Il y avait dans cet homme profondément sincère, mais que l'orgueil dominait, quelque chose de la naïveté d'un enfant. C'est ce que témoignent les historiens contemporains, et Théophile, dans le choix qu'il venait de faire, avait compté sur cette simplicité mêlée aux infatuations de l'amour-propre. Ainsi que je l'ai dit plus haut, à l'époque où, chef d'originiste, le patriarche avait eu pour adversaire l'évêque de Chypre, chef des anti-originistes d'Orient, il l'avait traité insolemment, suivant son usage, l'appelant « radoteur » et « anthropomorphite ». Et malgré cette insulte publique, consignée dans une lettre pastorale et aggravée par une menace d'excommunication, il lui suffit d'un mot pour ramener cet adversaire et le plier à ses volontés. Il écrivit à Épiphane, quand il eut besoin de lui, que si ses sentiments dans l'obscure question de l'originisme étaient changés du tout au tout, s'il avait vu le jour dans ses ténèbres, et si les écailles lui étaient tombées des yeux comme à saint Paul, il le devait aux salutaires réprimandes que ne lui avait pas ménagées le métropolitain de Salamine. Il reportait donc l'honneur de sa rétractation à ce grand docteur, lumière de l'orthodoxie. Cet hommage devait flatter Épiphane, et le flatta en effet. Le vieil évêque ne se sentit pas de joie d'avoir procuré à l'orthodoxie orientale une conversion non moins brillante par la renommée du converti que par l'élévation de sa dignité, et il se voua désormais à le servir. C'est ainsi que cet homme qui se jouait de tout put faire d'un candide vieillard l'associé de ses mauvais desseins et presque le complice d'un crime. Aucune occasion plus favorable ne pouvait s'offrir aux vaniteuses prétentions d'Épiphane. Un concile allait se réunir prochainement à Constantinople pour juger la conduite des longs frères, leurs opinions théologiques et la légitimité des censures qui les avaient frappés. C'était toute la question de l'originisme, agitée solennellement pour la première fois dans la ville impériale, sous les yeux de l'empereur, en face des évêques réunis de tout l'Orient. Or, qui guiderait le concile dans ses décisions? Qui poserait les articles de foi à défendre contre l'erreur? Qui dirigerait, dans ce labyrinthe de subtilités philosophiques et de demi-vérités chrétiennes que présentaient souvent les ouvrages d'Origène, ces prélats respectables mais ignorants, qu'enverraient au synode les montagnes de Phrygie, de Cilicie, d'Arménie ou les campagnes de Thrace? Les ténèbres étaient épaisses et la marche glissante, puisque l'archevêque de Constantinople lui-même avait failli en croyant peut-être communiquer innocemment avec les longs frères. Le devoir d'Épiphane, qui avait ouvert le combat, n'était-il pas de le soutenir jusqu'au bout? De prêter ses lumières au concile, de préparer la voie à des décisions d'une complète orthodoxie, de venir enfin à ses derniers jours raffermir l'Église dans ce qu'il croyait un des plus grands périls? Telles furent les pensées qui durent assaillir Épiphane quand il reçut vers le mois de décembre de l'année 402 une lettre du patriarche d'Alexandrie. Telles furent au moins celles que cette lettre était destinée à réveiller dans son esprit. La lettre l'entretenait en effet d'un futur concile, et Théophile, en lui envoyant une ampliation des actes de celui d'Alexandrie, qui avait condamné les longs frères, le priait de rédiger lui-même ou de faire rédiger par les évêques cypriotes, ses disciples, un formulaire où serait nettement posé la doctrine concernant Origène et l'origénisme. Ce formulaire devrait être envoyé à tous les évêques d'Asie de Bithynie et de Cilicie, lui-même se chargerait de ce soin, et il y joindrait les actes de son concile d'Alexandrie et les explications personnelles sur l'excommunication des longs frères. Ces documents seraient également transmis à l'archevêque de Constantinople pour que celui-ci ne pût arguer d'ignorance ni quant aux personnes, ni quant aux doctrines, s'il arrivait qu'on dût le prendre lui-même à partie. Cette dernière idée était loin de déplaire à Épiphane, car après avoir ramené à récépissance le patriarche d'Alexandrie, quelle gloire pour lui s'il allait convertir encore celui de la ville impériale.